Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. J'ai pris ma petite voix. On aurait pu vous parler de sécheresse, et c'est parti pour la Sarthe en date du 26 mai. La préfecture de la Sarthe a pris un arrêté de restriction de l'utilisation de l'eau pour le bassin versant de l'Argange, un cours d'eau d'une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la Sarthe qui coule aussi dans le Maine-et-Loire avant de se jeter dans le Loir, près de Durtal. Interdiction d'arroser son potager et de remplir sa piscine ou laver sa bagnole le jour, oui, entre 9h et 20h pour les populations qui sont dans la région où coule l'Argance, déjà. Dans les Ardennes, un tiers du département est carrément au niveau crise, c'est-à-dire au-delà de l'alerte et au-delà de l'alerte renforcée. Ces stades-là, c'était avant, puisque les difficultés ont commencé en mars. En hiver, ça y est, on a des problèmes d'eau en France. Dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, c'est la même chose, où la vigilance ne s'arrête plus et deux bassins versants sont déjà en crise. La carte trouvable sur le site vigio.gouv.fr se part petit à petit de couleurs, montrant la multiplication des arrêtés préfectoraux de restriction de la denrée vitale entre toutes, l'eau. Ça risque de pas s'arranger. On aurait pu vous parler de perméabilité des médias à la trivialité des informations putassières. Combien de temps d'antenne gaspillé à commenter le geste, la claque, les gamineries du couple présidentiel pendant tout le début de la semaine? Eh ben, 10 secondes ici, c'est déjà trop. À noter, en même temps, le 26 mai, des policiers de la Bravem qui s'étaient amusés à rouler sur des manifestants en 2023 et s'en étaient vantés auprès de leurs collègues ont pris de la prison avec sursis. C'est ça l'impunité. Mardi 27, au moins 2 personnes sont mortes dans des accidents de travail. Pour en savoir plus, cherchez du accident tout attaché, DU et puis accident, dans votre réseau social préféré. Avec des prévisions météo comme on en a eu, un pic de pollution à l'ozone était annoncé. L'occasion par exemple de parler de tout ce que nos activités propagent dans l'air. Eh ben non, le sujet c'était la claque. Et depuis, c'est le PSG. On aurait pu vous parler de l'A69, symbole des projets inutiles, sauf pour les adorateurs du pognon et de la croissance. Sens du produit intérieur brut. À retenir, un rendez-vous baptisé Convergence contre l'A69 du 4 au 6 juillet, quelque part sur le tracé. Des infos à trouver sur lessoulèvementsdelaterre.org entre autres, je vais y arriver. En attendant, la justice doit continuer son action puisque il a été réautorisé la construction de cette A69 après qu'en février ça a été annulé. Mais bon, quand on dit que la justice est indépendante, on a peut-être des petits problèmes, et de là à dire que la justice est juste. Puisque les opposants à ce grand projet inutile, sauf pour les adorateurs du pognon et de la croissance du PIB, veulent se pourvoir devant le Conseil d'État, après la Cour d'appel administrative. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative, justement. La justice doit aussi juger l'affaire sur le fond, mais pas avant 2026. Pendant ce temps-là, des parlementaires du coin ont pondu une loi qui donne au Parlement, dominé par la droite et l'extrême droite, ça va quand même des macronistes au RN, en étant tout le monde, tout ce beau monde est très très bien associé en tant que libéraux, en passant par Horizon, le Modem, les Républicains, la possibilité de valider une raison impérative d'intérêt public majeur, voilà à quoi sert cette loi, pour un projet d'aménagement qui sert surtout les intérêts des adorateurs du pognon et de la croissance du PIB. Décidément, cela, on les retrouve partout. Si vous voulez interpeller vos députés à propos de cette loi, dont le texte doit être voté le 2 juin, après que la loi a été votée au Sénat, à la mi-mai. Ouais, quand ils veulent, nos soi-disant représentants peuvent aller très très vite. Mi-mai, alors, dépôt début 2025, vote au Sénat à la mi-mai, et puis le texte se retrouve le 2 juin devant l'Assemblée nationale. Eh bien, vous, si vous voulez interpeller vos députés sur le sujet, vous pouvez aller sur stop-du-6a69.com et agir en ligne à défaut d'agir dehors. Faire des lois exprès pour favoriser les copains, on s'en moquait dans les années 90, quand c'était l'apanage de Berlusconi en Italie, le chef d'État qui faisait voter des lois pour éviter des condamnations et donc contourner la justice. Eh bien, le principe là est le même et montrait bien les intérêts défendus par nos soi-disant représentants. À propos des projets routiers dévoreurs d'espace et de ressources qui servent surtout à générer du produit intérieur brut sans intérêt pour les populations, mais pour les adorateurs du pognon, là il y a de quoi faire. Il existe un collectif de collectifs qui s'appelle la déroute des routes.org. La déroute des routes, ça c'est son nom, et .org, bah, c'est le nom, c'est le site. Mettez pas d'accent sur les E, puisque dans le beau monde d'Internet, les accents n'ont pas cours. La déroute-déroute.org, je vous recommande en ce moment leur petite note sur la conférence de financement des mobilités, c'est officiel, qui s'est ouverte début mai avec trois propositions. La petite note, par exemple, la nationalisation des profits autoroutiers et un moratoire sur tous les projets routiers. Eh ouais, à défendre, la route des routes. Bip bip stop. La déroute des routes.org. On aurait pu vous parler de Christophe Béchu. Mais pourquoi parler du maire Horizon d'Angers qui se déplace beaucoup en avion privé quand il est ministre? Eh bien parce qu'au dernier conseil municipal, il a fait du Trump dans le texte en renvoyant dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche, alors que l'opposition voulait faire voter un texte déclarant Angers ville antifasciste. L'antifascisme ne semble pas être une priorité pour Christophe Béchu. Et le fascisme alors? Eh bien voilà un édile qui n'insulte pas l'avenir. N'oublions pas qu'il est libéral, aussi son ennemi, c'est surtout une économie socialiste. Le fascisme, ça passe. On aurait pu vous parler de sabotage, ces actions qui se multiplient partout contre les bagnoles siglées, des engins de chantier, des câbles, des transfos électriques, des pylônes en tout genre. Pour essayer d'en savoir plus, au-delà des cris d'orfraie, on pourra lire Victor Cachard, philosophe de son état, qui a publié 2 tomes d'une histoire du sabotage aux éditions Libre. Le second tome s'intéresse surtout à notre époque. Édition libre tout attaché, édition au pluriel .org, édition libre.org. Victor Cachard, lui, c'est avec un D. On aurait pu vous parler de la TVA sociale ou de la réforme du modèle social à la française appelée de ses voeux par le baratineur qui nous sert de Premier ministre quand il passe à la talavision. Mais finalement, on a préféré vous parler de santé publique. Mercredi 30 avril 2025, à la salle des concerts, c'est près de la médiathèque Aragon à Le Mans, eh bien, avait lieu une conférence-discussion sur les perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs, comme leur nom l'indique, eh bien, nous font les glandes endocrines comme des coucourdes. Eh bien, il y avait comme intervenante, entre autres, Nathalie Bonvalot qui se présente elle-même. Oui, parce que c'est bien mieux quand les gens se présentent eux-mêmes.
Je suis Nathalie Bonvalot, je suis enseignante-chercheuse en toxicologie à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Et donc j'effectue mes recherches à l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, qui est une unité de recherche INSERM, qui se trouve aussi à Rennes, sur le même site que le HESP.
Une toxicologue donc, qui cherche à savoir ce que nos milieux de vie peuvent contenir comme poison. Allez. Produits toxiques. On a pu entendre EHESP, l'école des hautes études en santé publique, et INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale. Autant d'institutions qui concernent la santé publique. C'est par cet angle que nous avons commencé l'interview de Madame Bonvalot.
Une question peut-être naïve, mais qu'est-ce que la santé publique ?
Alors, la santé publique, c'est quand on essaye de s'intéresser à la santé de la population dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des maladies sur un individu pour essayer de diagnostiquer, pour essayer de lui donner des soins. On ne va pas regarder les gens un par un. On va vraiment avoir une vision globale de qu'est-ce qui se passe dans un pays ou dans une région. Donc nous, en France, on va travailler sur la santé de la population française. Et donc, on va regarder comment se portent les Français d'une manière générale, pour mettre en place des actions qui sont prises du coup à des échelles très collectives pour que la santé s'améliore. Donc ça peut être des actions sur l'accès aux soins, enfin, ou l'accès même au système de prévention, pour que les gens puissent plus facilement aller voir les médecins, faire les vaccins, ou même se soigner si jamais il y avait une maladie qui arrive. Ça peut être des actions plutôt sur l'environnement, pour favoriser finalement un environnement qui soit plus bénéfique pour la santé. Donc on travaille beaucoup, par exemple, dans les villes à essayer de réduire la pollution de l'air. S'il y a beaucoup d'usines, à faire des choses justement pour diminuer la pollution en lien avec les usines. On va aussi surveiller la qualité de l'eau. On va surveiller aussi les environnements intérieurs dans les bâtiments, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on prend à une échelle vraiment collective. Et puis après, on va travailler aussi plutôt sur des petites choses peut-être un petit peu plus spécifiques où on va essayer de délivrer des messages qu'on appelle des messages de promotion de la santé pour dire aux gens, en plus de tout ce que nous on peut faire d'un point de vue collectif via les collectivités, via le gouvernement, via les lois, les gens ils peuvent aussi faire des choses, des petites choses pour améliorer parce que les lois et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et puis parfois, bah, y a aussi des questionnements en lien avec les coûts qui font qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire forcément rapidement. Et donc, on essaye aussi de faire passer des messages.
Des messages. La santé publique se caractérise par la prévention collective plutôt que le curatif individuel. C'est pourquoi on entend régulièrement parler de rapports de Santé publique France, par exemple, pour alerter les populations sur les effets de la chaleur. Tiens, par exemple, un site vivre-avec-la-chaleur.fr est actuellement promu par Santé publique France. Même si, bien entendu, c'est seulement la lutte contre les causes du dérèglement climatique qui nous permettra, là encore collectivement, de mieux vivre. On aura entendu dans l'intervention de Nathalie Bonvalot que l'aspect économique pointe d'entrée le bout de son nez. Même s'il s'agit de réduire les effets de certains produits ou certaines pratiques dans les populations, les effets délétères, eh bien quant à la loi qui est mentionnée comme outil de santé publique, nous avons malheureusement en ce moment l'exemple de la proposition de loi Duplomb, officiellement nommée proposition visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Ça a l'air positif ça. Une loi où les études de santé publique ne pèsent pas bien lourd face au lobby de l'agriculture productiviste. Mais au fait, comment fait-on pour connaître la dangerosité de ce qui nous entoure ? On retrouve Nathalie Bonvalot.
Vous êtes également experte en indicateurs toxicologiques. À quoi servent-ils ?
Depuis longtemps, en fait, je travaille sur la construction de ce qu'on appelle des indicateurs toxicologiques ou des valeurs toxicologiques de référence. Ce sont des indicateurs qui sont utilisés pour estimer ou comprendre ou identifier la toxicité des composés chimiques qui nous entourent. Des polluants dans l'environnement, dans l'air, dans l'eau, dans les sols. Ça peut être des molécules chimiques qui sont dans nos produits de consommation, qu'on utilise au quotidien, hein, dans les cosmétiques, ça peut être des résidus de pesticides dans les aliments, ça peut être des molécules chimiques dans les matériaux de construction, dans les revêtements plastiques qu'on utilise à la maison, des choses comme ça. Et donc en fait, on génère des données scientifiques qu'on appelle toxicologiques. Donc ce sont des données qui sont réalisées sur des modèles d'animaux, sur des modèles de cellules, où on essaye de regarder qu'est-ce qui se passe dans les cellules quand on met le produit toxique en question. Et à partir de ces données, c'est des estimations, hein, on calcule une valeur dont on estime qu'elle est sûre, c'est-à-dire que si on n'est pas exposé au-delà de cette valeur, dans notre environnement ou au travers de nos activités, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des effets nocifs qui apparaissent dans les populations humaines. En santé publique, on s'intéresse vraiment à l'ensemble de la population. Donc ces indicateurs, ils sont calculés pour tenir compte des gens les plus sensibles, aux périodes aussi les plus vulnérables, et pas que dans un contexte particulier.
Et ces indicateurs toxicologiques servent par exemple à donner des autorisations à un certain nombre d'activités. Là c'est possible, là c'est pas possible, ou alors ça implique des conséquences pour l'activité en question, de se protéger, de protéger les populations, et également, pourquoi pas, d'informer les populations qu'on est juste à côté de ce genre de site.
Oui, alors effectivement, on peut utiliser ces indicateurs pour qu'ils soient adaptés, par exemple, à des niveaux seuils dans les environnements. Et du coup, quand on a, par exemple, une activité industrielle qui émet des polluants à une cheminée ou qui relargue des polluants dans l'eau aux alentours, l'activité industrielle, il y a déjà des règles très strictes. Hein, on doit mettre tout un tas de choses en place pour éviter justement ces émissions. Et puis, il y en a toujours un peu qui peuvent arriver. Et donc, on va regarder si les émissions résiduelles, après avoir mis en place des filtres, des bacs de rétention et tout ça, on va vérifier que les émissions ne dépassent pas les seuils qu'on a identifiés. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Par contre, si ça dépasse, il faut trouver d'autres solutions techniques pour réduire encore. Donc ça peut être changer un peu le process de fabrication ou modifier la température de combustion ou bien rajouter un filtre. Donc il y a des choses à faire techniquement pour baisser ces seuils, pour qu'on arrive justement à ce qui n'est pas d'effet aux alentours, pour les populations qui habitent aux alentours, mais aussi pour l'environnement et les écosystèmes alentours. Les indicateurs, là on parle de la santé peut-être plus des populations, on en construit aussi pour la santé de l'environnement d'une manière plus générale. Et alors peut-être que les citoyens connaissent mieux les indicateurs qu'on utilise par exemple dans les grandes villes quand il y a des pics de pollution atmosphérique. On voit souvent des messages sur les rocades ou les périphériques, attention, roulez moins vite, pic de pollution en cours. Clairement, ce sont des messages qui sont adressés à la population pour réduire les niveaux de pollution, et c'est parce qu'on a dépassé ces fameux seuils justement, les seuils qu'on a construits. Ça peut être les voitures, mais ça peut être aussi, il n'y a pas que le trafic, ça peut être aussi les combustions liées au chauffage, hein, ça arrive souvent l'hiver, par exemple, quand il y a des coups de froid et qu'on allume tous notre poêle en même temps.
Ben oui, parce qu'on a froid. Les niveaux de pollution de l'air qui existent pour chaque polluant. Eh oui, c'est Atmo. Vous savez, il y avait une espèce de girafe à un moment, ben, elle a disparu. Eh bien, les niveaux de pollution de l'air, les pics, les seuils qui sont indiqués et qui nous indiquent qu'il y a des pics quand ils sont dépassés, eh bien, c'est justement lié à l'activité de toxicologues qui s'y connaissent pour développer des seuils. Eh bien, ces niveaux de pollution existent donc pour chaque polluant. L'ammoniac, le dioxyde de soufre, les niveaux de pollution, les particules fines, j'en passais du pire ont été définis dans l'Union européenne et transposés dans le droit français. C'est d'ailleurs parce que l'État français ne fait pas tout ce qu'il peut pour atteindre les objectifs fixés de réduction et de la pollution de l'air. Je rappelle quand même, ce sont des libéraux, donc du coup, l'écologie et le libéralisme au niveau économique, ça va surtout pas ensemble. Donc, le respect de certains seuils n'étant pas atteint et les objectifs fixés par l'État français ne visant pas à les atteindre, eh bien, le Conseil d'État, la plus haute autorité administrative, a condamné plusieurs fois l'État à payer des amendes. À l'Association des Amis de la Terre, par exemple. L'État français est dans la panade puisque l'UE a un projet de révision des seuils, plus ambitieux encore, pour se rapprocher des valeurs définies par l'Organisation Mondiale de la Santé, qui dépend de l'ONU. Cette architecture institutionnelle s'appuie donc sur des recherches toxicologiques, comme celle de Nathalie Bonvalot, pour déterminer un horizon désirable en matière de qualité de l'air, mais aussi pour les sols, l'eau, etc. Désirable si l'intérêt général vous anime. Contraignant si le profit est votre boussole, puisque respecter les normes en vigueur, ça a un coût. Des filtres sur des cheminées d'usines, le retraitement des eaux usées avant le rejet dans les cours d'eau pour les industries, c'est du profit en moins. Alors il existe une autre technique pour ne plus avoir à respecter les normes définies. Pourtant, à l'aide de la science, c'est le relèvement des seuils, de manière légale bien sûr, mais sans plus s'occuper des résultats scientifiques. Ainsi, depuis février 2022, un arrêté permet par dérogation d'utiliser des parties métalliques de centrales nucléaires en démantèlement. Mais elles sont pas trop radioactives, hein. En octobre 2022, c'est un métabolite de principe actif de pesticides. Donc, c'est un principe actif qui s'est transformé au contact de la terre ou de l'eau, etc. Puisque, la chimie, c'est partout autour de nous, hein. C'est même à l'intérieur de nous. Quand vous respirez, vous faites de la chimie. Ah ouais, comme Monsieur Jourdain qui ne sait pas qu'il en fait. C'est un métabolite de principe actif de pesticides qui est passé de 0,1 micron par litre comme seuil, à 0,9 microns par litre. Et hop, l'eau redevient potable pour des millions de consommateurs. C'est pratique, hein. Mais ne jetons pas la toxicologie avec les actions de nos soi-disant représentants libéraux. Retrouvons Nathalie Bonvalot.
Et donc ça arrive des fois quand il fait chaud, quand il n'y a pas de vent.
Ce qu'on appelle les fameux pics d'ozone, notamment.
Effectivement, on peut avoir des pics d'ozone qui sont, eux, liés plus effectivement au trafic automobile. Alors l'ozone, c'est un peu compliqué parce que c'est un polluant secondaire qui n'est pas émis forcément par les voitures, mais qui va se fabriquer en fonction des conditions, de l'environnement. Et donc on peut retrouver des pics d'ozone beaucoup plus élargis, des endroits en fait géographiques plus élargis que le seul endroit où on a eu la pollution atmosphérique dans la ville. Et donc ça, c'est assez complexe à modéliser parce que ça dépend de l'environnement, des conditions météorologiques et tout ça.
Et ce qui est intéressant, c'est que l'ozone est créé avec l'action du soleil et les polluants qui sont émis. Du coup, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Et ces effets cocktails, est-ce qu'ils sont pris en compte par les indicateurs ?
Alors, les effets cocktails aujourd'hui, ils ne sont pas très bien pris en compte par les indicateurs. On fait des choses qui sont un peu discutables d'un point de vue scientifique. Mais par contre, on fait des choses en termes de gestion. C'est-à-dire que, en fait, quand on a des composés comme ça, où on s'attend à ce qu'ils soient ensemble, au même endroit, au même moment, pour faire un peu simple, on va additionner les indicateurs. On va considérer que si les composés ont des effets communs, on peut se permettre d'additionner leurs indicateurs. On peut par exemple pondérer par rapport à ce qu'on connaît de la toxicité des produits. Donc s'il y a un produit qui est deux fois plus toxique que l'autre, l'indicateur du deuxième produit, on va le diviser par deux. Vous voyez, on fait un truc mathématique un peu simple, on va dire, mais qui permet justement de décider quand on a ces problèmes de mélange finalement, parce que sinon, on n'arrive pas en science à générer des données réelles sur ces mélanges, parce qu'il y a trop de situations de mélange existant dans la vraie vie. Et ce serait la carrière d'un milliard de chercheurs à faire ça. C'est trop coûteux. Donc on le fait sur certaines choses qu'on connaît bien. Je sais par exemple qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur essayer d'identifier les mélanges les plus évidents, les profils les plus évidents de résidus de pesticides dans les aliments en fonction du type de population, de la façon dont on s'alimente. Donc des gens qui mangeraient plus de poissons, des gens qui mangent plus de fruits et légumes, des gens qui vont plus vers les fast-food. Et on fait comme ça, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on retrouve comme mélange typique. Et donc là, on peut être amené à faire des études vraiment spécifiques là-dessus, parce qu'on a identifié ces mélanges. Mais en fait, il y en a tellement dans la vraie vie que c'est difficile.
Bon, décidément, on manque de moyens pour faire du bon boulot dans la toxicologie. Au moins un boulot complet. Et c'est ça qui devrait nous occuper. Tiens, il y a des produits qui abîment les gens. Ce serait bien qu'ils n'existent plus, qu'on ne s'en serve plus. Et puis, pourquoi pas, qu'on se débarrasse des stocks. Eh ben non, le principe de précaution devrait prévaloir. Mais là encore, la place de l'économie d'accumulation de profits basée sur les valeurs du libéralisme économique est beaucoup trop importante. Surtout que la chimie ne semble pas avoir de limites. Des produits, il y en a. Des produits en veux-tu, en voilà. J'ai même des chiffres.
Vous parliez d'un nombre important de substances. J'ai vu quelque part qu'on pouvait en considérer 100 millions et 100 000 commercialisés en Europe. Donc ces composés chimiques, comme vous dites, ça servirait à faire des carrières pour des milliards de chercheurs et on ne les a pas sous la main. Est-ce qu'il ne conviendrait pas plutôt de limiter le nombre de produits ?
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai, le nombre de substances chimiques qu'on voit, quand vous dites 100 000, c'est ce qu'on estime sur le marché européen. C'est sans doute même un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de composés qu'on utilisait dans le temps qui sont persistants. Donc en fait, il faut les rajouter à ces 100 000 composés qui sont, eux, commercialisés sur le marché européen. Donc ça fait énormément de choses. C'est vrai qu'on essaye souvent de représenter ça avec un iceberg où on montre la partie émergée de l'iceberg où on dit que ça, c'est ce qu'on connaît et que le dessous, ce qui est sous l'eau, on connaît moins. Donc sur ces 100 000, il y en a très peu qui sont vraiment étudiés, effectivement. Aujourd'hui, on essaye, et ça a été aussi le discours de la Commission européenne ces 5 à 10 dernières années, on parle de sobriété chimique. Ce qu'on essaye de faire, c'est amener à réduire l'usage plutôt que remplacer à chaque fois. Et donc de prendre les décisions non plus molécule par molécule, mais plutôt essayer de prendre les décisions sur des groupes de molécules qui posent question pour éviter qu'on remplace par une autre qui va, on va s'en rendre compte au bout de 2 ans, être le même problème. Après, ça, c'est des choses qui sont complexes à mettre en œuvre. Ça prend un temps important parce que il faut... c'est du changement finalement sociétal quelque part. Et donc... il faut être prêt à ça, tout le monde n'est pas prêt non plus à ça. Et puis après, il y a aussi des contraintes. C'est toujours des compromis entre les besoins, les envies, l'innovation, les coûts. Et donc, il faut arriver à trouver finalement des compromis qui vont vers cette sobriété chimique.
On l'espère, du compromis en veux-tu, en voilà. C'est pas gagné quand on voit la taille des lobbies au sein de l'Union européenne. Le DDT, tiens, interdit depuis 1971 en France et 1978 dans l'ensemble de l'UE, de l'époque, ça s'appelait la CEE à l'époque. Eh bien, cet insecticide reste présent dans nos milieux de vie. En 2022, une ONG qui défend les pollinisateurs, qui s'appelle d'ailleurs Pollinis, cette ONG s'appelle Pollinis, a testé 30 eurodéputés et 14 journalistes à Bruxelles. 91% des échantillons comportaient des traces de DDT. Alors, je veux bien que les eurodéputés soient un peu vieux, les journalistes, pourquoi pas, mais certains n'avaient pas vraiment l'âge... n'était pas vraiment né quand a commencé l'interdiction de ce DDT. C'est étonnant, non, comme dirait l'autre. Ça permet surtout de se rendre compte de la persistance des saloperies balancées dans l'air, dans l'eau, dans les sols, par les êtres humains. À propos de l'iceberg décrit par Nathalie Bonvalo, toxicologue, une réglementation de l'Union européenne appelée REACH date de la fin des années 2000 et elle devait permettre d'étudier les substances et donner des autorisations et empêcher l'utilisation de ce qu'on appelle au sein de l'Union européenne des substances préoccupantes, avec des SPP et des substances particulièrement préoccupante. Seulement, si l'industriel peut prouver qu'il n'a pas d'alternative ou que le risque est géré, alors la substance reste autorisée. Il faut donc vraiment prendre le problème de la pollution chimique à bras-le-corps, tant les conséquences sont délétères. Déjà, nous, chez nous, on peut essayer de faire attention à ne pas utiliser 50 000 produits. Et à partir du moment où il y a des petits cadres orangés sur votre produit, ne l'achetez pas. Achetez des trucs qui n'ont pas justement les petits cadres orangés indiqués indiquant que c'est dangereux pour la faune, dangereux pour la flore, dangereux pour les humains, dangereux pour tout, dangereux pour quelque chose. Il faut donc prendre ce problème à bras-le-corps et la sobriété chimique est une nécessité. Espérons que nous ayons encore le temps d'y parvenir. Mais d'ailleurs, en quoi les substances chimiques peuvent perturber nos glandes endocrines? Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois. Que vous dire de plus? Eh bien que samedi 31 mai à 14h, rassemblement contre la guerre éternelle de l'extrême droite israélienne contre la population palestinienne à Gaza et dans les territoires occupés à l'heure de la reprise des offensives militaires mais aussi de la colonisation de la Cisjordanie. Oui, puisqu'ils font des colonies, c'est bien une colonisation. Nouvel avis à la population. Le centre social autogéré L'Allumette existe toujours. Place 7 rue de la Marne, pardon. N'hésitez pas à les contacter en allant sur place, 7 rue de la Marne, les mercredis et samedis après-midi, lors des permanences. Il y a plein de trucs qui se font, un club d'entraide féminine, une cantoche tous les mercredis à 12h. On peut cuisiner à partir de 10h, faire de la récup, etc. Renseignez-vous auprès d'eux. Un atelier informatique, atelier pour améliorer son français, ça c'est lundi de 14h30 à 16h30. Un grand ménage de l'Allumette. Ah tiens, ça c'est pour aller aider, samedi 14 juin de 10h à 12h. Et puis, café associatif, laverie gratuite, salle informatique, bibliothèque, entraide administrative, tous les mercredis et samedis de 14h à 19h, 7 rue de la Marne. Que vous dire d'autre? Eh bien que le 5 juin 2025, il y a une grève. Oui, on en entend peu parler. Forcément, il y a des claques et du PSG. Alors, la grève, c'est un appel à tous les salariés et retraités à se mobiliser massivement le jeudi 5 juin. Pourquoi? Eh bien, contre plutôt... la mise en place du système de retraite voulu par nos soi-disant représentants. Retraite, salaire, emploi, même combat. Regagnons l'abrogation de la loi qui est passée en 2023 avec le 49.3. Voilà pour un âge de départ à la retraite à 64 ans. À Le Mans, ça se passe, rassemblement à 10h, parvis, gare Nord. Le Mans, rassemblement à 10h, parvis, gare Nord, le jeudi 5 juin 2025. Qu'on se le dise. Également, le même jour, fin d'après-midi, il y a une journée d'action antifasciste en se souvenant du 12e anniversaire de l'assassinat fasciste de Clément Méric. Ça se passe à Le Mans, rassemblement manifestation antifasciste place de la République au Mans à 18h30 et à partir de 19h30 maison des citoyens citoyennes place des comptes du Maine au Mans avec un accueil et à partir de 20h15 discussion autour de deux films Une vie de lutte et Acta non verba. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur sarthe.demosphère.net, sarthe.demosphère.net. Le lendemain, n'hésitez pas à vous rendre à Écomoi pour un apéro informatif à propos un entrepôt géant, les entrepôts géants que veulent faire nos soi-disant représentants pour gagner un petit peu d'argent, pour occuper également quelques terrains sur des dizaines d'hectares. Dans la Sarthe, ça contient plus d'une centaine d'hectares, si on accumule tous les projets. Mais bien sûr, des dizaines d'hectares, il y a l'idée de faire quoi ? De faire tout simplement des entrepôts géants qui serviront à faire de la logistique. Et ça, pour le plus grand bien de qui? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Des Amazon et compagnie. Un système économique qui, je vous rappelle, nous emmène direct dans un mur qui s'appelle le dérèglement climatique. Donc, vendredi 6 juin 2025 à 18h, zone du Cruchet. Stop au béton, oui à l'apéro. Un apéro informatif vendredi 6 juin 2025 à 18h, zone du Cruchet, c'est à Écomoi. Et sinon, que se passe-t-il? Tiens, le 8 juin, il y a également une journée porte ouverte sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On en reparlera la prochaine fois. Et en attendant de se retrouver, par exemple, le 5 juin pour la manifestation, le rassemblement manifestation pour gagner l'abrogation de la loi sur les retraites, je vous dis tout simplement, allez, au revoir. Mm-hmm.